Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Un philosophe africain au siècle des Lumières, Amo le Guinéen, son œuvre. Amo, africain de Guinée. Voilà le nom de ce philosophe fameux, hélas trop peu connu jusqu'à ce jour, et dont nous disposons aujourd'hui de tous les documents nécessaires pour connaître la contribution qui a été la sienne à la vie intellectuelle, sociale, peut-être même politique, de l'Europe du XVIIIe siècle. Et aussi sa contribution à l'histoire des Africains au XVIIIe siècle. Quand on dit Africain au XVIIIe siècle, il faut entendre les Africains du continent africain, ceux qui, ayant été déportés, bon gré, mal gré, ont décidé et ont réussi de rentrer sur le continent africain. Et aussi, Amo appartient à l'autre catégorie d'Africains, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Africains de la diaspora. Et il a tout fait de ce qu'on attend de ces Africains de la diaspora. D'une part, ses œuvres ont contribué à défendre les droits de ces Africains, et d'autre part, il a mis une sorte de génie à être le meilleur dans son domaine, le domaine de la science, le domaine du savoir et le domaine de la philosophie. Son œuvre est restée jusqu'ici très peu connue, soit parce que ses œuvres étaient en latin, et aujourd'hui, il y a de moins en moins de savants qui travaillent cette langue ancienne, soit alors parce que certaines de ses œuvres étaient en allemand. Il faut penser dans l'allemand du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les choses commencent à changer parce que d'une part, on découvre une œuvre déjà ancienne aujourd'hui qui a deux siècles. C'est le livre de l'abbé Grégoire, ce prêtre catholique qui a pris parti pour la Révolution française, qui était favorable à l'égalité des droits entre les catholiques d'une part et d'autre part les juifs et les protestants, et qui évidemment était contre la traite des esclaves et contre l'esclavage des Africains. L'abbé Grégoire a publié un livre avec un titre étonnant, comme on le faisait en ce temps-là, les titres en accordéon. De la littérature des nègres, recherche sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature, suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts. En fait, c'est grâce à l'abbé Grégoire que nous disposons des premiers éléments les plus immédiats sur la vie et surtout sur l'œuvre de ce grand savant d'il y a trois siècles.
Amo était versé dans l'astronomie, et par loi le latin, le grec, l'hébreu, le français, le hollandais et l'allemand. Il se distingua tellement par ses bonnes mœurs et ses talents que le recteur et le conseil de l'université de Wittenberg crurent devoir en 1733 lui rendre un hommage public par une épître de félicitations. Il rappelle que Terence, aussi étoile d'Afrique, que beaucoup de martyrs, de docteurs, de pères de l'Église sont nés dans ce même pays, où les lettres étoient florissantes et qui, en perdant le christianisme, est retombé dans la barbarie. Amo donna avec succès des cours particuliers, dont la même épître fait éloge. Dans un programme publié par le doyen de la faculté de philosophie, il est dit de ce savant nègre qu'ayant discuté les systèmes des anciens et des modernes, il a choisi et enseigné ce qu'ils ont de meilleur. Amo, devenu docteur, soutint en 1734 à Wittenberg une thèse et publia une dissertation sur les sensations considérées comme absentes de l'âme et présentes au corps humain. Dans une lettre que lui écrit le président, il l'appelle « vir nobilissime et clarissime ». Ainsi, l'université de Wittenberg n'avoit pas sur la différence de couleur les préjugés absurdes de tant d'hommes qui se prétendent éclairés. Le président déclare n'avoir fait aucun changement à la dissertation d'Amo, parce qu'elle est bien faite. Effectivement, l'ouvrage annonce un esprit exercé à la méditation. Il s'attache à établir les différences de phénomènes entre les êtres existants sans vie et ceux qui ont la vie. Une pierre existe, mais elle n'est pas vivante. La cour de Berlin lui a voit conférer le titre de conseiller d'État. Mais après la mort du prince de Brunswick, son bienfaiteur, Amo, tombé dans une mélancolie profonde, résolu de quitter l'Europe qu'il a voit habiter pendant 30 ans et de retourner dans sa terre natale à Axim sur la Côte d'Or.
Au micro de Mémoire d'un continent se trouve aujourd'hui un jeune philosophe, professeur et enseignant à la fois de philosophie et aussi de l'égyptien ancien. C'est Yoporeka Sommet qui est avec nous au téléphone. Bonjour Yoporeka Sommet.
Bonjour Elikia Mokolo.
Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission consacrée à Amo le Guinéen. Vous êtes philosophe, vous connaissez tous ces livres et publiés et ces livres non publiés, mais dont on peut supposer le contenu. Je voudrais dire d'abord que, connu d'abord sous le nom de Anton William Amo, il a décidé de s'appeler Amo Guinea Affaire. Ce n'est pas tout à fait par hasard, parce qu'il n'est pas le premier. Avant lui, rappelle d'ailleurs l'abbé Grégoire, et rappelle aussi quelques autres, un autre enfant d'Afrique, qui avait été fait aussi esclave à Rome, qui avait reçu le nom de son maître, Terentius, a lui aussi ajouté à ce nom Affaire, c'est-à-dire la revendication de l'africanité. Et son premier livre, qui était certainement une thèse de doctorat en droit, De Iure Maorum in Europa, du droit des Noirs en Europe, est probablement, Yoporeka, une sorte de plaidoyer pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Européens sur le continent européen.
Ah oui, absolument, tout à fait. Malheureusement, on n'a pas réussi à retrouver cette thèse soutenue en 1727, comme vous l'avez précisé, et il est 1729 plutôt. Il est clair par son titre et par la problématique qui est développée qu'il prenait la défense des Noirs, il prenait la défense de la liberté des Africains contre la traite négrière et contre l'esclavage. Et cette position-là, je dirais que Amo l'a maintenue, enfin, il l'a gardée en rajoutant le qualificatif africain à son nom, donc affaire, ce qui a d'ailleurs été remarqué par ses enseignants. Donc, quand il a soutenu sa thèse de philosophie, c'est publié dans le livre, le recteur de l'université lui rend hommage et rattache son nom à celui d'illustres africains qui l'ont précédé, comme les Arnobe, comme les Saint-Augustin, etc. Donc, son ancrage africain est affirmé. Et puis, vers la fin de sa vie, Amo va quitter l'Europe pour des raisons qu'on peut deviner et rentrer en Afrique. Et on pense qu'il continue, de façon évidente, il défend le droit des Africains face aux attaques des esclavagistes. On sait ainsi, par exemple, qu'il a un frère jumeau qui était esclave au Suriname et qu'il a engagé une action pour le faire revenir. Et bon, puisqu'il a étudié le droit, et le philosophe Abraham nous dit qu'il aurait réussi à faire, puisqu'il a gagné la procédure, mais que malheureusement, au moment où la procédure a été gagnée, son frère était déjà mort.
Oui, le Suriname, c'est l'ancienne Guyane hollandaise, donc que nous connaissons bien par les textes de Voltaire sur le nègre de Suriname, où justement, il raconte comment l'esclavage des Noirs est ce sur quoi est basé la consommation de sucre en Europe. Yoporeka Sommet, comme philosophe, comment classeriez-vous Amo? Est-ce que ses œuvres, ont une pertinence encore aujourd'hui? Je pense notamment à De l'apathie de l'âme et de l'art de philosopher avec sobriété.
Moi, je crois que comme philosophe, ses œuvres ont de la pertinence. Enfin, presque de la même manière qu'un Descartes, par exemple. Parce que la problématique qui est traitée dans De l'apathie de l'âme humaine, ou de l'incapacité de l'âme humaine à sentir, c'est un peu ce que fait, c'est la problématique qui est traitée par Descartes, par exemple, dans les discours de la méthode ou dans les méditations métaphysiques. Et d'autre part, là, dans son deuxième ouvrage sur l'art de philosopher avec simplicité et sobriété, vous voyez, par exemple, dans cet ouvrage, il donne une définition de la philosophie. Et d'ailleurs, moi, j'ai cru bon reprendre en ouverture de l'ouvrage. Je la lis et on comprendra bien que c'est une position philosophique qui est encore pertinente aujourd'hui. Il dit de la philosophie ceci. Toute connaissance non utilisée en fonction d'une fin est inutile, sinon en elle-même, du moins en son effet et par l'intention dont elle possède. L'utilité de chaque chose est en effet jugée selon son but. Le but de la philosophie est la conservation et le perfectionnement du genre humain. Oui. C'est très fort.
Ça. Oui, c'est très très fort. C'est tout un programme d'ailleurs, pas seulement pour la philosophie, mais on pourrait aussi l'appliquer, je dirais, à ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Toute connaissance qui n'a pas d'effet sur les choses qu'elle étudie, ben probablement inutile. Donc c'est une position très très forte.
En plein 18e siècle, c'est pour ça que je disais précédemment qu'il fallait le compter comme l'un des acteurs du siècle des Lumières, du moins en Allemagne.
Oui, et de ce point de vue, tous les penseurs, philosophes qui deviendront plus tard peut-être des politiques, ça s'appuie, sans le dire toujours, sur cette œuvre-là. Je pense à Condorcet, quand il écrit l'esquisse des progrès de l'esprit humain, c'est dans la continuité directe. Et justement, il y a cette injustice qui fait que les Africains eux-mêmes ne connaissent pas les travaux de ce philosophe sur lesquels ils pourraient s'appuyer aujourd'hui pour développer leur propre argumentaire.
Tout à fait, mais c'est cette anomalie, disons, entre guillemets, qu'on voulait réparer à travers cet ouvrage qui est destiné, on va dire, bien sûr, bon, aux philosophes, mais pas seulement, donc aux étudiants, aux professeurs, mais aussi à toute personne intéressée par les sciences humaines, par l'histoire, par le développement des idées en ce siècle de l'Europe, mais aussi d'une certaine façon par la pensée africaine, parce que pour moi, Amo reste un philosophe africain. Donc il a pensé en utilisant les catégories universelles de la pensée, de la philosophie, et il a posé des questions qui restent philosophiques, c'est-à-dire qui restent les questions que vont se poser toutes les civilisations, parce qu'il s'intéresse au genre humain, à l'espèce humaine, comme il le dit lui-même. Donc, pour moi, il reste un philosophe africain.
Alors, vidons la querelle, parce que dans le livre, vous faites référence à un autre auteur qui le présente parce qu'il écrivait en latin et en allemand. Il parlait aussi d'ailleurs français, anglais très couramment. Cet autre chercheur le présente comme un Africain totalement aliéné.
Ah, mais ça, c'est une accusation un peu grave, parce que dans ce cas-là, il faudrait appliquer cette accusation donc à cet auteur lui-même. Bon, je précise qu'il s'est rétracté. Bon, je ne vais pas dire son nom, mais il s'est rétracté. Parce que Amo a écrit bien, il était un homme très cultivé, il connaissait toutes ces langues-là. Il écrivait en latin comme tout le monde, enfin c'était la langue de la philosophie à l'époque. On sait, enfin, en lisant ses écrits, qu'il maîtrisait le français, qu'il connaissait le grec et l'allemand, évidemment. Et qu'il a utilisé donc ces langues-là pour faire son travail, comme nous continuons de faire aujourd'hui, sans que ce soit le critère sur lequel nous pouvons être considérés comme aliénés ou non.
Alors, vous faites aussi un lien, s'agissant de la philosophie d'Amo, entre sa philosophie, sa manière de penser, ses concepts, et ce que vous savez de la langue égyptienne et de la philosophie égyptienne. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aujourd'hui?
Oui, alors, je dis, et ça concerne le premier, la thèse de philosophie de Amo, où il parle de l'apathie de l'âme humaine, et dans son développement, il s'en tient uniquement, donc comme Descartes, à la suite de Descartes, à la distinction entre le corps et l'âme, donc qui est une reprise d'une distinction qui se trouve dans la civilisation judéo-chrétienne. Je parle de là et je fais une comparaison avec comment les Égyptiens anciens concevaient ces aspects de la personne humaine, de la personnalité. Donc, il n'y avait pas que l'âme et le corps, comme nous en avons hérité de la civilisation judéo-chrétienne, mais dans l'Égypte ancienne, au lieu de deux aspects, ils en avaient jusqu'à 8 ou même 10. Avec des noms qui sont intraduisibles. Par exemple, en égyptien, dans ce qu'ils appelaient le Khep, c'était le corps périssable. Ensuite, ils avaient un autre aspect qui ne relève pas de la matérialité, qu'ils appelaient le Ka, qu'on peut traduire par l'esprit, c'est-à-dire on offre un sacrifice, on verse une boisson ou un alcool ou de l'eau pour le Ka d'un défunt. Donc c'est l'esprit, ce n'est même pas l'âme, c'est pas ce qui correspond à l'âme. Ensuite, on a un autre nom, une autre substance, donc qui ne relève pas de la matière, qui s'appelle le souffle. Hein, comme on retrouve encore cette expression en Afrique, son souffle l'a quitté. Les Égyptiens appelaient ça le pas. Ensuite, un autre élément qui s'appelait le lak-ak, c'est-à-dire la force, hein, la force de l'esprit. Un autre élément qui s'appelait le sekem, c'est la puissance. Un autre, le lib-ib, c'est le cœur. Et c'est, vous voyez, quand...
Oui,
quand le mort se présentait devant le tribunal, les Égyptiens considéraient que tout ce que nous faisons de bien ou de mal était enregistré dans notre cœur. Hein, et que c'est ça qui faisait qu'on savait si on avait bien vécu ou pas, enfin, le siège des actions et tout ça. Ensuite, vous avez le double, qu'ils appelaient shooting, etc. Et quelque chose que notre tradition judéo-chrétienne ne mentionne pas du tout, c'est le nom. C'est-à-dire que, en fait, les Égyptiens pensaient, et dans beaucoup de régions d'Afrique, on pense encore la même chose, quiconque dont le nom est prononcé n'est pas mort.
Oui, donc en fait, Amos serait donc beaucoup plus en continuité au-delà de ses connaissances du XVIIIe siècle avec ce fond profond de l'Égypte ancienne et du continent africain.
Je pense aussi ça c'est dans notre lecture, dans la lecture que nous pouvons faire de ces textes. Si nous avons cet arrière-fond culturel, on peut voir tout à fait qu'il traite de problèmes qui sont encore actuels et qu'on peut traiter avec nos mots dans nos langues, dans les langues africaines ou en référence avec l'Égyptien ancien, et qu'on peut aller au-delà de la division qu'il a opérée lui-même entre le corps matériel et l'esprit ou l'âme.
Alors, je voudrais pour finir et finir sur une autre polémique, c'est que dans ce fameux XVIIIe siècle, la position d'Amo, évidemment, devait beaucoup gêner les négriers qui ont cherché un autre Africain pour jouer l'anti-Amo. Les Hollandais l'ont trouvé, évidemment, toujours dans l'actuel Ghana. Ils l'ont nommé, il s'appelle Jacobus Kapitein. Lui aussi a fait une thèse de doctorat, mais cette fois-ci à l'Université de Leyde, thèse publiée aussi en latin, je traduis le titre en français, de l'esclavage en tant qu'elle n'est pas contraire à la religion chrétienne. Donc c'était vraiment une position, qui était celle des négriers de l'époque. Et au fond, on a l'impression que, c'est Nkrumah qui le disait, il y a ces deux traditions dans la pensée philosophique et la pensée politique africaine, la tradition d'Amo, dans laquelle lui-même Nkrumah s'inscrivait, et l'autre tradition qu'il considérait comme étant celle des traîtres, qui étaient prêts avec des arguments apparemment savants à justifier l'injustifiable à propos du continent africain.
Tout à fait, et cette analyse de Nkrumah est juste, et moi je la partage à titre personnel, parce que ce capitaine a été formé pour servir de second couteau, c'est-à-dire pour servir d'agent des Hollandais, puisqu'après... Après sa thèse, qui examine le fait que l'esclavage peut être concilié avec la liberté chrétienne. Donc, il est réintroduit, il est ramené au Ghana pour faire une œuvre d'évangélisation. Donc, pour travailler dans le sens que voulaient les esclavagistes et les Hollandais en justifiant, en quelque sorte, l'esclavage qui n'était pas en contradiction avec la doctrine chrétienne. Donc, et ça, Amo est tout à fait le contraire et tout à fait l'inverse, a suivi une autre voie. D'ailleurs, sur laquelle il a péri, je pense qu'il a péri victime. Bon, mais ça, c'est une hypothèse, on n'en a pas la certitude absolue, mais on sait qu'il a fini sa vie dans un fort négrier à Chama. Et moi, je considère que le fait qu'il ait été là-bas, au moment de sa mort, ne devait pas être un déplacement volontaire.
Voilà, merci beaucoup à vous, Yeporeka Sommet. Je rappelle que ce livre très important contient pour la première fois en français les œuvres majeures de ce philosophe absolument lumineux, Amo Guinea Affair, Amo Africain de Guinée. Votre livre, la présentation de ce livre que vous faites est due aux éditions Théam en France. Merci beaucoup à vous, Yeporeka Sommet, d'être venu à notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.